Bonjour Rita Zoulaï.
Bonjour Didier.
Ravi de vous retrouver malgré la période un peu troublée. Bien sûr, une chanson, une histoire, c'est votre chronique. Et tous les 15 jours environ, vous venez nous raconter l'histoire d'une chanson. Et aujourd'hui, franchement, il n'y a rien à dire. On va l'écouter et j'imagine que personne ne va se demander ce dont il s'agit. D'habitude, on a la chair de poule et par cette période, certainement, ces jours-ci où l'État d'Israël est à nouveau menacé, on entend différentes versions de la Tikva, puisque c'est le titre de cet hymne national israélien. Et je me suis posé la question, Irit, est-ce que l'auteur de cet hymne est connu ? Alors, la musique, oui, ça vient de la Moldo, tout le monde le sait. En tout cas, c'est une variation, on y reviendra.
J'y arrive.
Mais l'auteur lui-même des paroles, est-il connu ?
Alors, on va commencer par l'auteur des paroles, mais après, on parlera de ce que tu viens de dire là. Eh ben oui, on connaît bien l'auteur des paroles de la Tikva, qui s'appelle Naftali Herz Imber, mais il n'est connu que grâce à ce chant, en fait, devenu l'hymne du sionisme par excellence. Pourtant, il a écrit beaucoup de poèmes et d'articles en allemand, en anglais, en yiddish et surtout en hébreu, alors que l'hébreu n'était même pas encore une langue parlée. En fait, Naftali Herz Imber naît en 1856 en Galicie, qui était l'Ukraine. Il étudie dans une yeshiva. Et depuis son très jeune âge, on sent que c'est un enfant différent des autres. Par exemple, à l'école, il refuse de s'asseoir à table comme tout le monde, déjà petit. Et il préfère se cacher sous la table. Et il dit à son rabbin « Examine-moi à la fin du cours et tu verras ». Et en effet, les maîtres rabbins finissent par comprendre que Naftali Imber est un petit génie. Et très vite, on le surnomme l'enfant prodige. Déjà à l'âge de 10 ans, il apprenait la Kabbalah et il écrivait et il commentait le Zohar. C'était un truc incroyable. Mais quand il a 18 ans, son père va mourir et alors il décide de déménager dans une autre ville qui s'appelle Brody. Et il découvre là le mouvement de la Haskalah, ce qui est l'équivalent juif du mouvement des Lumières. Et là, il s'éloigne de la religion. Il étudie toutes les grandes philosophies, il devient un grand sioniste et décide de voyager de par le monde. Imber était donc un marginal, ce genre d'artiste intellectuel sans le sou, qui passait son temps à boire et qui trouvait à tour de rôle des mécènes pour le loger et le nourrir. À Constantinople, il rencontre Lawrence Oliphant, un homme politique britannique, qui est un fidèle adepte du retour des Juifs vers Sion. Naftali Herz Imber devient son secrétaire particulier et il le suit en Palestine. Pourtant, avec lui, un cahier dans sa poche avec des poèmes à moitié entamés, dont Tikvateinu, notre espoir, qui est devenu après la Tikva. Et en fait, Imber va tomber amoureux de Alice, l'épouse de son boss, de Lawrence Oliphant. Ils vivront une romance orageuse dans le dos du mari qui se doute de rien. Le trio vivra ensemble pendant 5 ans dans le village druze de Daliat el-Karmel près de Haïfa, jusqu'en 1887. Alice et Lawrence, je vous passe les détails, finissent par mourir de malaria et d'autres maladies. Et puis, Naphtali Imber, alcoolique, fauché et malheureux, retourne à ses périples. Il mourra à New York à l'âge de 53 ans d'une maladie du foie induite par l'excès d'alcool. Son corps sera rapatrié à Jérusalem en 1953 et enterré au mont de Sion. Et une petite ironie du sort que je viens de découvrir, Imber décède en octobre 1909, le jour même de Simchat Torah, le jour où se sont passés ces terribles massacres en Israël il y a environ 3 semaines.
Et oui, et il paraît aussi, si mes informations sont correctes, que la Tikva a connu pas moins de 77 variations, on va dire ça comme ça, avant d'atteindre sa forme actuelle.
Oui, c'est incroyable. En fait, la toute première ébauche, qui s'appelait Tikvateinu, notre espoir, devenu Hatikva, l'espoir, a été écrite par Naphtali Imber en Roumanie en 1877. Puis, il l'a finalisée dans sa chambre à Jérusalem une dizaine d'années plus tard. Des témoins oculaires racontent qu'à chaque fois qu'il sentait la muse, il s'empressait de l'immortaliser avec un crayon sur les murs de sa chambre, jusqu'à la hauteur que sa main pouvait atteindre. Tous ces murs étaient recouverts de fragments de poésie. La Tikva composée, en fait, comportait 9 strophes. Enfin, comporte toujours 9 strophes, mais nous, on chante seulement les 2 premières. Et quant aux paroles, j'aime bien signaler aussi que quand on regarde, quand on écoute les hymnes nationaux d'autres pays, très très souvent, on entend des phrases du style « nous allons donner notre sang à la patrie », alors que la Tikva pas du tout, ne parle pas de donner son sang ni de le prendre. C'est juste une prière d'espoir de retourner vers la terre promise de laquelle le peuple juif avait été exilé 2000 ans auparavant. D'où l'expression « Shnot Alpaim ». Donc les 2000 ans, c'est très important, c'est 2000 ans d'espoir car pendant les 2000 ans d'exil. En fait, il s'agit, dans la première strophe, d'une seule phrase complexe avec 2 clauses. « Tant que dans son cœur, tout au fond de lui, le juif sentira son souffle de vie, et tant que ses yeux regarderont fixement en direction de Sion, l'Orient, alors notre espérance n'est pas perdue. » Odlov datikvateinu. En fait, Imber reprend l'expression du peuple d'Israël qui dit dans la prophétie d'Ézéchiel « Nos os sont desséchés, notre espérance est perdue, nous sommes damnés ». Puis Ézéchiel va dire « Ainsi parle l'Éternel, je vous ferai sortir de vos sépulcres et je vous ramènerai dans le pays d'Israël ».
Eh bien, il y a donc un attachement aux prophéties bibliques finalement, ainsi que l'idée même du retour vers la terre promise. Mais en ce qui concerne la mélodie, on y revient, je citais tout à l'heure la Moldo, vous m'aviez repris. J'ai hâte d'avoir vos explications là-dessus justement.
Eh ben voilà, en fait il y avait beaucoup de polémiques autour de cette fameuse mélodie, qu'on retrouve d'ailleurs dans pas mal d'œuvres, et qu'on se demande en fait qui a copié sur qui. Eh ben, des pionniers juifs en Israël se mettent à chantonner ce poème avec cette mélodie. Il y avait d'abord une autre version que quelqu'un a écrit sur la Tikva, mais il a fait une autre mélodie pour chacune des 9 strophes. Donc ça n'a pas marché, c'était indigeste. Et quelqu'un, je ne sais pas où, en Israël, avait mis cette musique-là sur ce beau poème et c'est passé de bouche à oreille. Personne ne se demandait alors d'où vient cette mélodie ni comment. Puis, il est indéniable de constater, bien sûr, cette grande ressemblance avec d'autres œuvres, dont la pièce de Smetana de 1874, ce fameux Die Moldau, ce qui fait croire qu'il y a une sorte d'emprunt, mais voilà que les musicologues font des recherches encore plus approfondies et découvrent que cette mélodie, figurez-vous Didier, remonte à plus de 700 ans. Et que l'origine première serait en fait bel et bien d'une mélodie juive par excellence. Il s'agit d'une prière séfarade pour la rosée qui s'appelle Birkat Hatal. On faisait une prière spéciale en automne pour que la pluie tombe. Et les juifs séfarades chantaient ça dans les synagogues de la péninsule ibérique aux alentours du XIIe siècle déjà. Et comment est-ce que la mélodie est arrivée là où elle est arrivée? Après l'Inquisition, alors que les Juifs étaient dispersés à travers l'Europe, la mélodie chemine, c'est-à-dire la prière chemine vers l'Italie, où elle devient une chanson d'amour populaire, Fuggi Fuggi Amore Mio. Puis elle arrive en Roumanie, où elle devient une chanson folklorique gitane. Et puis même, on en a d'autres. Et voilà que je passe dans les autres. Il y a beaucoup de chansons qui reprennent un peu cette... musique, mais Wolfgang Amadeus Mozart, enfant à 12 ans, qui se retrouve en Italie pour faire ses études, il entend cette prière et il incorpore alors cet air dans l'une de ses compositions. Mozart emmène la musique à Vienne, puis à Prague, et là, hop, Smetana la récupère. Et Die Moldau de Smetana, comme Hatikva, faisait partie d'un soulèvement nationaliste. La pensée du compositeur tchèque dit qu'un mouvement national, c'est comme une rivière. Tu ne peux pas arrêter l'eau de couler, tout comme on ne peut pas éteindre l'espoir. Par ailleurs, pendant le mandat britannique en Palestine, les Britanniques interdisaient aux Juifs de chanter la Tikva à la radio juive. Alors à la place de la Tikva, on diffusait du Moldau, de Smetana. Les Britanniques ne pouvaient quand même pas interdire une œuvre de musique classique.
Non, ça c'est clair. Mais alors, la Tikva s'impose d'elle-même comme une sorte d'hymne juif, c'est ce que vous venez de nous expliquer, si j'ai bien compris. Et ce, malgré le concours organisé par Herzl, il faut pas l'oublier, il avait organisé un concours en 1897, lors duquel il avait demandé à plusieurs personnes de lui amener des chansons pour pouvoir faire un hymne sioniste à l'époque, exact. Un hymne israélien. Et il y en avait 45 qui lui ont été soumises.
Aucune
bien non.
Aucune n'a été retenue. C'est incroyable. Il y avait trop de polémiques, chacun voulait autre chose. Aucune n'a été retenue. Mais il faut dire que Naftali Herz-Imber, il espérait vraiment que sa chanson devienne l'hymne juif officiel. Et voilà qu'au cours de l'hiver 1903, lorsque le 6e congrès sioniste se tient à Bâle, Naftali Imber va se rendre avec les quelques derniers sous qui lui restaient. Lorsqu'il arrive au bâtiment du casino où se réunissaient les mandataires du congrès, le portier refuse de le laisser entrer en raison de son apparence négligée. Il faut dire qu'il ressemblait à un SDF, il était alcoolo. Et Imber qui insiste et qui dit « Je suis l'auteur de la Tikva !» Mais le portier lui dit « Eh oh, dégage !» Et donc Imber s'écarte et à travers les fenêtres ouvertes, il entend les échos d'une vive dispute. Herzl venait d'évoquer son projet d'installer des Juifs en Ouganda. La plupart des personnes présentes s'y opposent. Certains pleurent et se jettent par terre en signe de deuil. Et soudain, des voix de chant éclatent de la salle. Les délégués du congrès sioniste exprimaient leur désir de s'installer en terre d'Israël en chantant la Tikva.
Ah, belle histoire.
Eh oui, Imber, tout ému, qui entendait ça de l'autre côté de la rue, savait qu'à ce moment-là, le tournant dont il rêvait avait enfin eu lieu et sa chanson était devenue l'hymne politique improbable d'un pays qui n'existait toujours pas.
Ben c'est ça qui est assez révélateur et symptomatique. Et vous m'aviez dit aussi, j'aimerais bien vous parler du chef d'orchestre italien Bernardino Molinari.
Ha ha.
Pourquoi ?
Eh ben là, c'est intéressant. En fait, l'orchestration que nous venons d'entendre de la Tikva, qui est celle qu'on considère finalement, même Zubin Mehta a dit que c'était la plus belle et que c'était celle-là qu'il fallait utiliser. Cette orchestration-là, elle a été celle du chef d'orchestre italien Bernardino Molinari. Et quelle est son histoire ? En octobre 1948, Molinari arrive en Palestine sur un bombardier britannique, racontant que la Vierge Marie lui était apparue en rêve et lui avait ordonné d'aller aider le peuple juif sur la terre d'Israël. Pendant 3 années, Bernardino Molinari joue avec l'Orchestre Philharmonique d'Israël et l'une de ses premières orchestrations fut la Tikva. C'est lui qui dirige l'interprétation de l'hymne national quand David Ben-Gourion déclare l'indépendance de l'État hébreu à Tel Aviv en mai 1948. Et voilà qu'alors qu'Israël commence à traquer les nazis, Molinari disparaît tout d'un coup. Et puis, on découvre qu'il avait été jugé en Italie en tant que sympathisant fasciste, qui avait correspondu avec le ministre de la propagande nazie, Joseph Goebbels. Et en tant que chef d'orchestre, il avait trahi les Juifs au profit des fascistes. Son voyage en Palestine était une tentative ratée d'échapper à la justice. Il a été reconnu coupable et il est mort dans un monastère à Rome.
Eh bien.
Et puis, lorsque l'État d'Israël est créé en 1948, aucun hymne ne sera inscrit dans la loi, car les députés de la Knesset n'arrivaient toujours pas à décider. Ils avaient différentes propositions de chants bibliques et d'autres. Ceci dit, la Tikva faisait quand même l'unanimité juste sur le terrain. Elle s'est imposée d'elle-même. Il a été chanté en vertu de la tradition et non en vertu d'une loi. Et figurez-vous, Didier, Combien de temps ça a duré? Jusqu'en 2004. Il y a seulement une vingtaine d'années à peine que la tikva va enfin officiellement être adoptée par la Knesset comme hymne national d'Israël. Et le vote décisif en faveur de la tikva a été exprimé par Ayoub Kara, un député druze de la Knesset, qui est originaire de Daliat el-Karmel, là où vivait l'auteur de la tikva, Naftali Herz Imber, avec Alice et Laurence Oliphant.
Ah ben ça, c'est la boucle est bouclée, on va voilà. dire. Pour Molinari, je me suis dit que finalement, il avait été bien puni par la vie, parce qu'aller jouer l'hymne national quand on est sympathisant.
Mais on continue à jouer son orchestration, parce qu'il était quand même un superbe chef d'orchestre et musicien.
La punition était bien comme il faut. Punition divine, dirons-nous aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, vous avez relevé le défi, comme toujours, d'effectuer une traduction chantable de la tikva comme vous l'aviez fait pour Bachana Abba, nos auditeurs s'en souviennent certainement. Alors, pour se quitter, je vous propose qu'on écoute cette traduction que vous avez faite, traduction chantée, on est chantante et chantée.
Chantable, chantée.
Voilà, vous ne vous contentez pas de faire une traduction littérale, vous y apportez aussi une touche de poésie qui a sens avec, je dirais, le sens originel de la chanson. Mm-hmm. Et on va écouter votre amie. Et talentueuse
Joëlle
Strauss qui interprète la traduction chantable donc de l'espoir, c'est-à-dire la tikva. Merci beaucoup Irit.
Merci Didier.
À dans 15 jours.
À bientôt.
Tant que dans son cœur, tout au fond de lui, le juif sentira son souffle de vie.